Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 6 septembre. C'est finalement Michel Barnier, ancien ministre Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, qui a été nommé Premier ministre. De nombreuses réactions dans la région. L'Assemblée plénière du Conseil régional a désigné le successeur de Laurent Wauquiez et ce sera bien comme prévu Fabrice Pankoek. L'offre de train est insuffisante dans la région, conclusion de la Chambre régionale des comptes. Renaud Père, actuel vice-président en charge de l'habitat et de la politique de la ville à la métropole de Lyon, a lancé hier un nouveau mouvement politique de gauche et écologiste. Petit détour par le quartier de la Castellane à Satonécamp où l'arboretum Clémence Lortet a été inauguré. Mais qu'est-ce qu'un arboretum ? Explication et reportage dans cette édition.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après plus de 50 jours d'attente, c'est finalement Michel Barnier, ancien ministre de Chirac et Sarkozy, qui a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Le nouveau Premier ministre, né en Isère, a débuté sa carrière politique dans la région il y a 50 ans. En 73, à 27 ans, il devient le plus jeune député de l'Assemblée nationale. En 79, au siège de la région à Charbonnières, il est aussi le cadet de l'Assemblée régionale. Le futur Premier ministre est en 1989 président du Conseil général de Savoie. Barnier est nommé ministre de l'Environnement en mars 93. En juin 2000, Michel Barnier devient commissaire européen. Il est aussi au ministère délégué aux Affaires européennes de 95 à 97 et devient ensuite commissaire européen. Il sera ensuite ministre de l'Agriculture. Il avait échoué toutefois en 2021 lors de la primaire LR pour les présidentielles. Les réactions ont été nombreuses hier à Lyon. Sébastien Michel, le maire LR d'Écully, vante l'expérience et le sens du compromis de Michel Barnier. David Kimmelfeld parle d'un véritable affront, nommer un membre de LR alors que c'est l'unique parti qui n'a pas participé au Front Républicain lors des dernières législatives est un véritable affront pour tous les électeurs qui se sont déplacés pour dire non à l'extrême droite, a expliqué l'ancien président de la métropole. Macron choisit un membre de la formation politique la plus durement rejetée et qui compte moins de 50 députés. Bravo, beau déni de démocratie, écrit pour sa part la nouvelle députée NFP Sandrine Runel. Une insulte au fonctionnement de nos institutions et au résultat des urnes, selon Marie-Charlotte Garin, écologiste. Bruno Bernard évoque, lui, une trahison des électeurs de gauche et écologistes qui ont fait barrage en votant pour la coalition Ensemble contre l'extrême droite.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
L'Assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes s'est réunie hier pour élire son nouveau président. Laurent Wauquiez, contraint de quitter ses fonctions en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, avait adoubé le Savoyard Fabrice Pankoek pour lui succéder. Maire de Moutier et ancien vice-président de la région délégué à l'agriculture, Pankoek a été élu sans surprise. L'offre de train est insuffisante dans la région, c'est la conclusion de la Chambre régionale des comptes. 418 rames en 2023, soit le même nombre qu'en 2017, a expliqué le magistrat en charge de présenter le rapport. Une offre stable, alors que dans le même temps, la fréquentation des TER hors Covid a été constamment en hausse. Conséquence, on s'entasse dans les trains, le nombre de voyageurs par rame étant passé de 97 à 104. Le rapport note aussi la faible réserve de trains de secours en cas de panne, 2 ou 3. Pas plus, il en faudrait 12. Selon la CRC, il manque tous les jours 30 rames pour offrir un service de qualité aux voyageurs. Les magistrats financiers craignent pour les années à venir. Le parc de trains d'Auvergne-Rhône-Alpes, comprenant le plus grand nombre de vieux trains corail de France, un parc donc vieillissant. Or, il faut 5 à 7 ans pour passer commande et obtenir les renforts. On estime le besoin en matériel roulant à hauteur de 3,4 milliards d'euros sur les 10 ans à venir, selon la CRC. En décembre 2023, la région avait annoncé un grand plan d'investissement. Renaud Père, actuel vice-président en charge de l'habitat et de la politique de la ville à la métropole, a lancé hier à Lyon un nouveau mouvement politique de gauche et écologiste. Voix commune compte une centaine d'adhérents. Le mouvement entend réunir le mouvement social, les gens qui travaillent notamment dans le social et dans la solidarité. La plupart des 100 premiers adhérents n'avaient jamais adhéré à un parti, explique l'ancien directeur de Sciences Po Lyon.
Lyon Demain, idée en partage.
Le quartier de la Castellane, à Satonécamp, abritait encore il y a 30 ans le 99e régiment d'infanterie. Mais avec la professionnalisation des armées, le camp militaire a laissé place à un nouveau quartier. Des programmes immobiliers, des commerces, des habitations, mais aussi une gendarmerie et plus bucolique qu'un arboretum installé sur un bassin d'infiltration qui se remplit seulement en cas de forte pluie. Une forêt urbaine qui, d'abord, est un lieu de détente, un espace de respiration et de fraîcheur, comme nous l'explique Damien Mounier, c'est le maire de Satonécamp.
Il y a plusieurs vocations pour cet arboretum. La première vocation, c'est vraiment un parc dédié à toute la population, aux habitants du plateau nord, pour venir se promener, de jogging, pour promener son chien, etc. Voilà, c'est un parc. Puis ensuite, la vocation quand même principale, c'est un aspect pédagogique pour découvrir ces espèces d'arbres, ces 127 espèces d'arbres différentes qu'on peut planter chez soi. Et donc, c'est un projet d'avenir.
Satonécamp devient un petit peu le capital de la botanique avec cet arboretum.
Un petit peu, j'ai pas cette prétention, mais un petit peu effectivement, parce que c'est unique hein, sur la métropole de Lyon. Il y a des forêts urbaines hein, qui ont été implantées, le vice-président l'a rappelé, mais un arboretum comme celui-ci, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est expérimental, mais c'est unique sur la métropole de Lyon.
Donc à la fois un intérêt pour les habitants de Satonay et également pour les gens qui seraient un peu plus spécialistes et qui viendraient
tout
de l'extérieur.
Oui, tout à fait, pour les promoteurs, pour tout citoyen, pour vraiment tous ceux qui le souhaitent et qui veulent découvrir ces espèces d'arbres.
L'arboretum a été imaginé par la métropole de Lyon pour montrer la diversité des espèces d'arbres adaptées au territoire. 127 essences d'arbres différentes pour inspirer les urbanistes et aussi encourager les habitants à les intégrer dans leur jardin. Les explications de Pierre Athanase, vice-président de la métropole en charge de l'environnement.
Un arboretum, c'est une collection d'arbres. C'est un petit peu, c'est une espèce de musée vivant. Quand vous allez au musée voir des œuvres d'art, elles sont accrochées au mur. Là, vous avez des arbres, ici 127 arbres de 127 espèces, qui permettent aux gens de voir in situ à quoi vont ressembler les arbres qu'ils ont vus en photo, peut-être de découvrir certains arbres. Je pense que pour beaucoup, ils vont découvrir des arbres. On a des arbres qui sont moyennement communs, mais qu'on retrouve assez facilement chez des pépiniéristes, d'autres qui sont effectivement des arbres de collection. Qu'on teste, nous, parce que ça va être important aussi, et c'est pour ça que cette notion de musée vivant est importante, ça va nous permettre de tester peut-être des essences qu'on utilisera dans certaines conditions, et avec, malheureusement, cette épée de Damoclès, qui est le dérèglement climatique par rapport à la végétation.
Alors, par rapport à ça, justement, j'ai noté qu'on perd des arbres, effectivement, avec ce réchauffement climatique. Vous avez des expériences là, qui sont menées sur certains arbres, j'ai retenu notamment le pin d'Alep.
Oui, effectivement, on le voit principalement sur les conifères, alors pas uniquement sur nos plantations urbaines, on le voit malheureusement dès que vous allez dans le Jura, quand vous allez dans le Vercors, on voit les épicéas qui, même en altitude, sont en train de disparaître. On aura besoin, au niveau paysager, de continuer d'avoir des arbres qui sont persistants, d'avoir du vert pendant l'hiver, des taches de vert, c'est toujours quelque chose qui est très apprécié, et il nous faut absolument trouver maintenant des essences qui vont pouvoir supporter ça. Parce que je vous parle de l'épicéa, mais malheureusement, maintenant, même les cèdres, qui étaient pourtant réputés des arbres résistants aux sécheresses et résistants aux canicules, sont en train de souffrir de façon assez énorme. Donc il faut absolument qu'on puisse tester un certain nombre d'espèces. Donc on pense évidemment au pin d'Alep, ça peut être le pin sambro, le pin accroché. Voilà, des espèces comme ça, on en a ici qui sont en culture, et on va tester ça dans quelques endroits. Hors de question pour l'instant de faire des plantations massives, on est vraiment dans de l'expérimentation.
Pour chaque arbre, il y a un petit panneau, il y a aussi un QR code.
Oui, l'idée, c'était de ne pas faire des grands panneaux. C'est assez laid quand même d'avoir se promener dans un endroit où les panneaux encombrent un petit peu le paysage. Donc, on a des petits panneaux qui sont où on a le nom de l'arbre français, le nom latin, vraiment un minimum d'informations. Et on a systématiquement un flashcode qui permet, avec son smartphone, d'avoir des informations beaucoup plus importantes sur chacune des espèces.
Sur ces 127 espèces, on a l'impression qu'il y a beaucoup de chênes. On pensait qu'il y avait le chêne, c'était le chêne, mais apparemment, chêne, c'est au pluriel.
Oui, oui, le chêne, c'est quelque chose de très très variés. On a des chênes qui sont persistants, qui vont garder leurs feuilles pendant l'hiver. On a des chênes qui sont caduques, et nos chênes à nous qu'on a sont marcescents, c'est-à-dire que la feuille meurt l'automne mais reste l'hiver et ne va tomber qu'au printemps. On a aussi des chênes qui sont des arbustes, voire des petits arbustes. Dans le sud de la France, le chêne Kermès ne dépasse pas 1m10, 1m20, et on a des chênes qui montent à 40 mètres de haut. Voilà, donc le monde des chênes est très très varié, et ici on a un bon aperçu de la des différents types de chênes qui existent de par le monde.
Et des exemples également d'espèces qui sont très rares ici, je pense notamment à cet arbre à miel qui vient des Brotteaux, c'est ça ?
Oui, alors c'est une naissance qui était effectivement très très rare, hein, c'est une naissance asiatique et tout, et le pépiniériste qui l'a retrouvé, en fait l'a retrouvé au Brotteaux, dans une propriété privée, certainement à quelqu'un qui avait voyagé au cours du 19e siècle et qui avait dû ramener un petit arbre. Et cet arbre-là est vraiment à l'origine de tous les Evodia qu'on voit maintenant dans la région. Donc c'est un voyage qui avait ramené un seul arbre et qui, au jour d'aujourd'hui, produit des centaines d'arbres qui sont vendus maintenant un petit peu dans toute la région.
L'idée, c'est ça aussi, c'est de dupliquer un peu les espèces pour trouver de nouvelles espèces qui sont résistantes au réchauffement climatique ?
C'est surtout de les tester. Voir si elles sont effectivement résistantes à ces conditions-là, s'assurer qu'elles ne vont pas être invasives, parce que ça peut être un problème. On a des espèces qui vont tellement se plaire, on le voit actuellement avec les lentes, on le voit avec le robinier, des espèces qui deviennent invasives et qui vont concurrencer et qui posent des véritables problèmes pour la biodiversité. Donc il faut qu'on s'assure de ça avant de généraliser les plantations.
L'arboretum, il s'appelle Clémence Lortet. C'était qui, Clémence Lortet ?
Alors, Clémence Lortet était une botaniste. Tout à l'heure, je vous ai parlé des horticulteurs, hein, vraiment beaucoup d'horticulteurs sur la région lyonnaise, mais très peu de botanistes. Et Clémence Lortet était une botaniste au 19e siècle, à un moment où c'était quand même très dur pour les femmes de s'imposer dans un monde scientifique. Et c'était vraiment une personne qui est toujours restée sur la région lyonnaise, hein, qui est née à Lyon, qui est décédée à Oulin. Donc vraiment, qui était vraiment là. Et ça paraissait vraiment important de lui rendre hommage. Pas uniquement parce que c'est une femme, mais parce que c'était vraiment une scientifique. C'était vraiment quelqu'un qui avait apporté à la connaissance des plantes.
Pierre Athanase, vice-président de la métropole en charge de l'environnement. L'arboretum de Satonnet est un espace de 17 000 m². Il prend le nom de Clémence Lortet en hommage à cette naturaliste lyonnaise du 19e siècle, figure emblématique de la botanique. On termine par un mot de sport, basket en féminine. L'ASVEL a perdu contre Tarbes 67-74 lors de la demi-finale du tournoi de Clermont-Ferrand. Les Lyonnaises rejoueront samedi à 15h30 au gymnase Gauthier de Clermont pour disputer le match de classement de ce tournoi face aux perdants de l'autre demi-finale entre Villeneuve-d'Ascq et Charnay. Après avoir connu leur pire saison en top 14 depuis la remontée en 2016, avec à la clé une bien triste 11e place, les coéquipiers de Baptiste Couillou veulent prendre une revanche ce week-end. C'est lors de la reprise pour le Loup Rugby et ce sera samedi à Montpellier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.